Et merde, je vous dis tout. La marque Adam et Ève, sensuelle et amusante, est mon sponsor du moment. Et je vais paraître kitsch parce que j'ai un mec et j'ai envie de fêter la Saint-Valentin. En fait, je vois un peu ça comme l'occasion de se la jouer romantique, dentelle avec des fleurs, lingerie, me faire jouir. Adam et Ève m'a offert le parfait combo pour ça. Une robe ouverte avec longue fente au niveau des jambes, en lingerie noire transparente, idéal pour se sentir désiré, avec un vibromasseur parfait pour les couples. À stimulation interne et externe, peut être contrôlé dans le monde entier avec l'application WeConnect. Tu peux en profiter toi aussi grâce à mon code promo VALCOLETTE, comme Valentin et Colette, en très diminué, VALCOLETTE. Ça te donne 15€ de réduction des 60€ d'achat sur tout le site jusqu'au 14 février. Je glisse les liens dans la description des derniers épisodes de ce podcast. A tout de suite, bisous!
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Si tu écoutes ce podcast, sache que tu peux aussi le regarder sur YouTube. Et si tu regardes cette émission, tu peux aussi l'écouter sur ton application de podcast ou musique préférée. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour être au courant des prochaines sorties. Un dimanche par mois, Colette se confesse aussi en live. Tu peux t'inscrire à la newsletter pour recevoir les prochains rendez-vous. Tous les liens sont dans la description ou directement sur mon site internet www.coletteseconfesse.fr. Salut, c'est Colette. Et j'ai l'honneur et le plaisir d'être avec une personne que je connais très peu, que j'ai rencontrée la semaine dernière dans un bar. Bonjour Pierre.
Bonjour Colette.
Merci d'être là. Alors tu es ici aujourd'hui parce que tu m'as entendu parler avec tes copines de certains sujets, disons olé olé. Pour dire plus précisément, on va dire que mes copines voulaient que je me mette dans l'organisation de soirées privées libertines. Et c'est là où t'es rentré en jeu, enfin t'es rentré dans la conversation.
Exactement. J'ai entendu, en fait, je pense que je vous ai entendu parler pendant une heure.
Faut que tu te rapproches du micro.
Ah, là on m'entend mieux.
Ah, là on t'entend beaucoup
bon,
mieux.
Bon, nickel. Bon, je vous ai entendu parler pendant une heure. Ça parlait de BDSM, de mettre des fessées, de... Et donc, au bout d'une heure, ma copine avec laquelle je suis est partie aux toilettes et j'ai pas pu m'empêcher de vous demander de quoi il s'agissait. Et c'est là que, du coup, tu m'as parlé des soirées libertines.
Voilà, bah, d'abord, on t'a dit qu'on faisait du podcast, du coup. Enfin, je t'ai parlé de Colette se confesse, de mon podcast un petit peu. Et après, tu m'as dit, ah, les soirées libertines, ça me connaît parce que...
Parce que j'en fais enfin, pas mal, ça fait un petit moment que j'en fais. Et je trouvais ça intéressant parce que enfin, c'est assez compliqué en fait, à mettre en place. À tout ce qui est logistique, déjà se lancer dans le délire, c'est un truc assez particulier parce que tout le monde ne va pas se dire à un moment dans sa vie « Moi tiens, je vais faire des orgies, je vais faire des partouzes. » Et je trouve ça toujours intéressant d'avoir des gens qui rentrent dans l'idée en fait, de se lancer dans ce milieu-là, tu vois.
Ok, est-ce que... alors avant qu'on rentre vraiment dans l'organisation même d'une soirée, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Parce que finalement, je ne connais rien sur toi. est-ce que, sans trop en dévoiler, parce que ton anonymat est important ici, qu'est-ce qui t'a amené du coup aux soirées libertines? Est-ce que ça a été toujours une envie? Est-ce que tu as découvert ça par hasard? Comment ça a commencé?
C'était très progressif. Donc moi, à la base de la base, j'abordais des meufs dans la rue. Donc en gros, j'allais quand je voyais une fille jolie, etc., j'ai l'abordé pour parler directement dans la rue. Après, je me suis lancé dans les boîtes de nuit. Et en fait, au bout d'un moment, j'avais...
Alors attends. Avant qu'on continue, tu allais parler aux meufs dans la rue. Donc tu faisais quoi exactement? Parce que ça peut être très tendancieux, dit
ouais,
comme ça.
Je sais que c'est un sujet... Non, mais c'était juste, surtout quand je croise un regard dans la rue, ou quand je suis... Je sais pas, un événement social, donc ça peut être n'importe quoi. Hein. Je vais au marché, je vais à la boulangerie, etc. Souvent, t'as une petite discussion qui se lance ou t'as un regard qui est changé. Et quand t'as cette connexion un peu humaine, souvent, j'allais j'allais taper la discute, tu vois, bonjour, comment tu vas, etc. Pas de trucs très clichés, pas de punchline douteuse, mais juste de la conversation basique qui aboutissait souvent à l'échange d'un numéro et d'un Instagram.
Donc tu veux dire que ça commençait déjà par un regard, tu voyais que la meuf te matait en gros, ou toi tu matais la meuf et que ouais. Tu voyais un petit sourire, il y avait un petit ouais. Échange comme ça.
Souvent. Enfin, moi je suis pas partisan du fait d'y aller jusqu'en, voilà, t'as vu la personne, parce que souvent du coup la personne est surprise, t'as pas le côté préconnexion qui a lieu avant. Et bon, moi je suis pas fan de ça, je sais qu'il y a des mecs qui s'en fichent totalement, mais moi c'est pas mon délire. Et du coup, donc j'ai commencé là-dedans, donc ça m'a permis d'avoir plusieurs partenaires, enfin disons classiques, du one-to-one si tu veux. Et petit à petit, en fait, avec un pote, on s'est dit, ce serait bien de faire un plan à trois. Donc j'avais un pote de plan à trois. Donc c'est comme ça que je me suis un peu lancé dans le truc. Donc on a galéré en fait pendant des mois et des mois à faire le premier plan à trois. Et une fois qu'on a réussi à faire ce premier plan à trois qui était une galère sans nom, c'est là qu'en fait...
Et qui du coup était comment ? Un bon souvenir ? Un mauvais souvenir ?
C'était, c'était une galère parce qu'on savait pas comment faire. T'as pas de mode d'emploi sur internet. Y a des mecs qui essaient de t'expliquer comment lancer un plan à trois, mais c'est un peu foireux quoi. C'est pas du step by step que tu peux reproduire dans la vie de tous les jours. Donc en fait, on a essayé 10 000 trucs pour faire notre plan à trois.
Mais comme quoi par exemple ?
Comme quoi, en fait, du coup, j'avais pas mal de contacts, des filles que j'abordais dans la rue ou des filles que j'avais rencontrées en boîte de nuit. Et on demandait en fait.
Tout simplement,
on demandait, on disait, écoute, avec un pote, on cherche des filles ouvertes d'esprit, machin, pour faire un plan à trois. Très, très compliqué. Très compliqué parce que déjà, t'as le tabou de le faire. Je pense qu'il y a beaucoup de filles qui ont le fantasme de faire un plan à trois, mais qui vont pas vouloir passer à l'action. Là, c'était pas très naturel parce que du coup, c'était par message, on demandait, etc. Et je pense qu'il y a pas mal de blocages psychologiques en fait de se dire j'ai couché avec deux mecs que je connais plus ou moins quoi. Et la situation s'est décantée parce que du coup c'était quand même assez j'avais l'obsession de vouloir y arriver, tu vois, de me dire j'entends des potes qui l'ont fait, on voit ça dans les films, etc.
Et puis t'avais l'obsession du coup de le faire avec ce pote là enfin je veux dire, c'était vraiment vos contraintes personnelles à vous, vous êtes dit ouais on le fait ensemble.
C'était pas forcément on voulait pas forcément le faire ensemble, mais c'est l'objectif qu'on s'était donné à tous les deux. C'est de réussir à faire un plan à 3, faire un plan à 4, 5, enfin
plusieurs. C'était rassurant que ce soit quelqu'un que tu connaisses aussi ?
Aussi, ouais, complètement. Quand tu veux faire un plan, surtout quand t'es à deux mecs, c'est quand même beaucoup plus rassurant de le faire avec un pote ou un mec que tu connais bien. Parce que tu sais que le mec va être réglo, qu'il n'y aura pas de moment bizarre, pas de réaction bizarre non plus. Donc c'est plus rassurant en tant que mec déjà de le faire avec un pote.
T'avais peur de quoi, par exemple ?
J'avais peur de, par exemple, tu vois, quand t'es... avec du recul, je peux en parler plus facilement, mais que le mec en face, tu vois, ait des réactions bizarres ou des comportements bizarres ou de pas savoir dialoguer avec le mec avec lequel tu vas faire un plan à trois et tu vois, en fait, d'être la partie qui est un peu seule dans le plan à trois. Et ça, qui est pas facile non plus pour une nana, tu vois, c'est... tu lui proposes un plan à trois avec deux mecs et si elle connaît pas bien les deux mecs non plus, c'est pas facile, quoi. Parce qu'elle se jette un peu dans le grand bain, et ça se fout les deux mecs, tout le monde est fou, tu vois. Donc t'as toute cette partie, en fait, déjà à rassurer, lui dire que ça va bien se passer, lui dire que c'est pas bizarre. T'as toute une logistique, concrète logistique d'avoir l'appartement, d'avoir l'endroit, etc. D'avoir la personne avec laquelle le faire, d'avoir l'environnement pour que la fille se sente bien.
Le contexte, ouais.
Le contexte qui fait qu'en fait, la fille va pouvoir prendre son pied aussi, parce que le but, c'est que tout le monde kiffe, que les mecs kiffent également. Et que tu as un peu une symbiose dans le groupe et que tu te dis j'ai fait un plan à trois et c'était cool quoi.
Et t'avais des craintes que la fille préfère avec ton pote ou l'autre mec et que du coup de te sentir un petit peu rejeté quelque part ou...
Non, pas du tout. Parce qu'au final, en fait, la fille avec laquelle on l'a fait, c'était une fille avec laquelle j'avais déjà couché plusieurs fois. Et du coup, j'avais pas cette peur-là parce que je connaissais déjà bien la fille. Mon pote, c'était un très bon pote, c'est toujours un très bon pote. Et du coup, en fait, on n'avait pas eu toute cette appréhension-là. Et le pote en question était vachement. C'est un gars qui fait du tantra, je sais pas si ça te parle. Du coup, vachement ouvert sur le cul, pas du tout dans le jugement, etc. Donc au final, l'expérience s'est très bien passée. Même si on avait quand même. Je pense qu'on avait chacun de nos côtés, même la fille, des blocages un peu psychologiques, tu vois, de se dire. Je le vois vraiment comme une zone de confort sexuel, tu vois. Dès que tu rajoutes un partenaire ou dès que tu le fais dans un endroit un peu nouveau avec des gens nouveaux, t'es en train d'étendre une zone de confort Et forcément, au début, bah, t'es un peu perdu, quoi. Tu sais pas trop quoi faire, t'as le stress que je vais bander, etc. T'as 10 000 trucs qui te passent par la tête. Et ça, je trouve intéressant aussi avec le fait de faire des plans à plusieurs. C'est qu'en fait, t'as quand même, tu repousses des barrières à chaque fois. À chaque fois que c'est un lieu différent, des personnes différentes, avec des âges différents, des vécus différents. Et je trouve que t'as vraiment une espèce de sortie de la zone de confort que tu vois pas forcément quand tu fais pas de plans à plusieurs. Mais au-delà de la dimension érotique, sexuelle, je pense que t'as aussi un peu une dimension de développement personnel, en fait, de te lancer dans un truc qui est totalement nouveau et où en fait t'as aucun repère, quoi.
Et oui, d'accepter d'être fragile aussi, quelque part, quoi.
Totalement. Bah, t'es à nu, quoi. Enfin, littéralement à poil devant plusieurs personnes.
Dans plusieurs sens du terme, du coup.
Dans plusieurs sens du terme. Et c'est vrai que c'est pas un truc qu'on t'apprend, quoi. Déjà, tu vois, le fait d'être... Tu vois, quand t'es seul avec quelqu'un d'autre, bon, déjà, t'as le fait de, je pense aussi bien en tant qu'homme que femme, accepter le fait que tu sois nu en face de l'autre. Mais c'est tout de suite décuplé, en fait, quand t'es avec plusieurs partenaires, parce que là, du coup, bah, t'as tout le monde quelque part qui te regarde un peu, mais si t'es pas, tu regardes directement la personne, tout le monde s'échange des regards, les mecs, on va forcément croiser l'engin de l'autre, etc. Tu vois, donc t'as forcément 10 000 trucs auxquels t'as pas songé, qui se produisent quand tu vas faire le plan à 3, 4 ou plusieurs, quoi.
Pour finir juste un peu sur cette première expérience, non d'ailleurs pas pour finir, parce que j'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus sur comment ça s'est passé après en soi.
Ouais.
Pourquoi le choix d'avoir fait deux hommes plus une femme et pas deux femmes plus un homme? Qu'est-ce qui a amené à cette décision?
Bonne question. Moi, ça me faisait super peur, le deux filles. Ouais. Alors qu'avec du recul, je préfère largement le faire avec deux filles.
Ah oui, je suis contente que tu en parles. Mais c'est un vrai sujet.
Ouais, mais après, je pense que ça dépend des mecs aussi. Mais j'avais vraiment peur, en fait, de me dire je vais pas être à la hauteur, ça va être trop compliqué. Jamais je vais pouvoir bander, les satisfaire. Tiens, je mettais une pression de dingue à l'idée de le faire avec deux filles. Alors que je pense que ça aurait été plus simple dans l'organisation. Mais je me sentais beaucoup plus à l'aise, en fait, de le faire avec un pote que de le faire avec deux filles, quoi.
Et donc, tu peux m'en dire un peu plus quand tu dis l'organisation, même donc, quand ça s'est fait et... Qu'est-ce que ça veut dire tout ça exactement?
Organisation, déjà, on était deux mecs à essayer de trouver une fille pour faire le plan. Mm-hmm. Donc, tu vois, lui cherchait de son côté dans ses contacts, moi je cherchais de mon côté dans mes contacts. Il y avait le côté aussi, c'était un challenge qu'on s'était fixé à deux. Donc, il y avait un peu un travail d'équipe là-dessus. Il progressait de son côté. C'est lui, du coup, qui s'est lancé dans tout ce qui était application de rencontre. Sur les plans à trois, donc tu m'avais parlé de... Attends, c'était quoi la tienne? C'était... Attends, moi, je t'ai parlé de Field et de Wild. Donc, c'est lui qui s'est mis là-dessus.
Moi, je n'en dirai pas plus parce que je ne souhaite pas dévoiler trop ici.
Bon, bah écoute, je suis sur l'application, tu m'avais parlé, mais j'ai plus le nom en tête, mais bon, c'est pas grave. Donc, en fait, on s'était tous un peu lancés, enfin, tous les deux lancés dans cette recherche, voilà, de comment concrétiser le truc. Et alors, à tous ceux-là qui vous disent, tous les potes qui vous disent qu'ils font des plans à trois tout le temps, c'est super galère à organiser. Donc en vrai, si on n'a pas les petites cordes ou les petites applis ou les bons contacts, c'est assez compliqué. Et donc on s'est lancé dans cette aventure-là, tu vois, ah de débroussailler un peu le terrain.
En même temps, quand tu dis que déjà, coucher avec une personne, il faut que le feeling passe, c'est pas tout le temps évident. Alors coucher avec deux personnes, voire plus, faut que ça matche de partout, c'est jamais facile, quoi.
De ouf.
Et la confiance.
Ouais.
D'ailleurs, du coup, donc il y a eu cette première fois et comment tu t'es senti après ou même juste après l'acte en fait déjà. Est-ce que vous avez dormi ensemble?
Alors, je vais te donner tous les détails parce que je pense que c'est quand même assez intéressant. Donc déjà, on s'est tous craqué un Viagra avant le plan A3. Enfin, pas la fille du coup, mais avec mon pote, parce que en fait, on avait une peur bleue. Mais de ne pas réussir à bander, tu vois. Et alors, du coup, moi, c'était la première fois que je prenais une pilule de Viagra. J'avais la gueule qui était toute rouge. Parce que tu as des effets secondaires, en fait, à prendre du Viagra.
C'est marrant, ça fait plusieurs fois que tu parles vraiment de cette peur de ne pas bander, quoi. Comme si elle pouvait être assez récurrente.
Ouais, parce qu'en fait, tu vois, j'avais peur de me dire, c'est un truc totalement nouveau. J'ai pas réussi à me concentrer sur le moment présent, tu vois. Et j'avais d'autres potes qu'on avait fait avant qui m'avaient dit moi c'était tout mou et tout, impossible de le faire, tu vois. Et donc je t'avoue que j'ai un peu balisé là-dessus. Bon, au final c'est très bien passé. Mais du coup, donc, j'étais un peu dans cet état d'esprit-là au début, enfin, manque de confiance en moi, clairement, de le faire à trois. Et donc, en fait, au début, bah, on essayait de reproduire typiquement ce qu'on avait vu sur des films porno, ce qui n'est pas forcément la bonne pratique avec du recul, mais on n'avait que ça comme référentiel, tu vois. Donc, on a tenté de faire donc préliminaire, etc. Mais très vite, en fait, on était parti sur faire de la double peinée, etc. Alors qu'en fait, c'est... Bon, la fille était excitée par le fait de reproduire un peu les scénarios, mais je pense que t'as des moyens beaucoup plus sensuels, calmes, naturels, en fait, de kiffer un plan à trois. Et je pense que le fait de vouloir reproduire absolument ce qu'on avait vu dans des films de cul, c'était pas forcément la bonne idée. Mais en fait, donc, on l'a fait plusieurs fois dans la soirée. Donc la première fois, on est tous un peu mal à l'aise, y compris la fille, parce que voilà, bon, c'était la première fois pour tout le monde. Mon pote, la fille, on l'avait jamais fait. Et donc première fois, bon, ça patinait un peu, on savait pas trop comment faire. Et en fait, très rapidement, quand on était un peu, j'allais dire sur le même niveau énergétique, mais tu vois qu'on avait un peu appris à se connaître, on avait bien rigolé la première fois, parce que là, on voyait qu'on était tous un peu stressés. Et au final, les deux fois suivantes...
Ça devient drôle, en fait. C'est comique.
En fait, on avait tous un peu les mêmes peurs. Et on se rend compte très vite qu'au final, il n'y a pas lieu d'avoir peur. On est là pour kiffer. Et c'était vraiment kiffant. Pour le coup, une fois que tu laisses tous tes bagages, que tu n'as plus peur, que tu as confiance en toi et que voilà, tu ne te prends pas la tête, bah, tu te débloques. Et moi, je sais que ça m'a... Enfin, même avec les filles que je voyais en one-to-one après, il y avait une espèce de zone de confort qui avait été un peu étendue. Et au niveau de l'acceptation de mon corps, etc., de la vision que j'avais de ma sexualité, je trouve que ça m'a limite aidé, en fait, de passer de cette barrière, de coucher avec plusieurs personnes, que de faire que les trucs à deux, quoi.
C'est hyper intéressant, ce que tu dis. Que du coup, le fait d'être sorti de ta zone de confort, vraiment, dans une autre situation, bah, ça t'a ramené même à être plus à l'aise, même dans une intimité qui est plus mainstream, disons, quoi.
Ouais, totalement.
Et si tu as des exemples concrets pour appuyer ça, tu penses à quoi, par exemple, quand tu dis que tu te sentais mieux, comment tu l'as remarqué, en fait, que tu étais plus à l'aise vis-à-vis de quoi? C'était dans la communication, c'était quoi?
Je pense que l'un des trucs, bon, c'est progressif, hein, c'est pas quelque chose qui a été radical, mais qui plus est dans tout ce qui est orgie, où là on était beaucoup plus, le fait d'être nu devant les autres. Ou tu vois, en one-to-one, bah, le fait d'être totalement nu, de balader à poil chez moi avec la partenaire à côté, ça s'est fait beaucoup plus facilement. Tu vois, le fait de ne pas avoir à se demander est-ce qu'il faut que je me cache, est-ce que je remette mon caleçon, etc. Le rapport à la nudité, je trouve, évolue quand tu es en capacité d'être à l'aise quand tu es 3, 4, 5, plus. Et en fait, t'es beaucoup plus libéré sur à quoi ressemble ton corps. Tu vois, t'es pas là à te demander est-ce que j'ai un gros cul, est-ce que machin et tout. Et je trouve que c'est assez agréable, en fait, de pas avoir, tu vois, tout le côté pudique. Tu vois, même j'avais même tenté de faire une plage nudiste, tu vois, et je sais que avant d'être rentré dans ce délire là de faire des plans à plusieurs, jamais ça m'aurait passé par la tête, tu vois. Et en fait, le fait d'être faire des plans à trois, des orgies, etc., je me sens beaucoup plus à l'aise du fait de me balader à poil ou autre.
Ouais, c'est cool, c'est qu'en fait, tout simplement, tu t'es dit, bah, en fait, j'ai un corps, et puis c'est un corps, et puis voilà,
ouais.
On est tous des corps, et il n'y a pas de... Il n'y a pas de fantasme à ajouter à ça. Enfin, quelque part, on est tous différents, et puis voilà, quoi.
Ouais.
Il n'y a pas de corps parfait, aussi.
Aussi.
Ouais.
Et ça m'a... Il y a un deuxième truc, aussi, où ça me fait un petit déclic. Donc, je pense, comme beaucoup des gens qui écoutent, il y en a tous qui regardent du porno. Et c'est là aussi que j'ai réalisé qu'en fait, tout ce qui était projeté dans le porno était clairement différent de la vraie sexualité. Parce que tu vois des gangbangs, tu vois des doubles peinés, tu vois des... Enfin, tous les trucs que tu vois typiquement dans le porno. Donc moi, j'ai grandi avec ça, comme tous les mecs, tu vois. À partir de 12, 13, 14, 15, tu commences à regarder ce genre de trucs. Et le fait de vraiment le voir dans la vraie vie, c'est là que tu vois que ça n'a rien à voir, quoi. La façon de le vivre, le ressenti de la fille aussi, tu sens qu'en fait, tout ce que tu vois à l'écran et sur lequel les filles et les mecs se masturbent, est radicalement différent en fait dans le dans la façon de le ressentir quand tu le fais vraiment. Et je pense que si le enfin le décalage aide pas vraiment parce que bah, le premier réflexe que j'ai eu quand j'ai fait un point à 3, bah, c'était le porno, tu vois. Et je pense que bah, tous les mecs qui débutent dans la sexualité ou qui vont à leur première expérience avec leur copine, etc., ils vont avoir tendance à projeter le truc. Et en fait, ça a tellement rien à voir que tu te dis, ah, merde, c'est pas ce que j'avais vu sur les films. Qu'est-ce qui se passe? On m'a raconté des bobards, quoi.
Ouais, et puis en même temps, dans la vraie vie, quand une fille kiffe, tu le vois et tu le ressens aussi, peut-être pas de la même manière que dans un film porno où... Ou bah, il y a beaucoup d'acting aussi. Hein. Après,
ouais.
J'irai pas juger. Enfin, on ne sait pas tout. Mais bon, il y a. J'imagine que nombre de fois, les rapports sont aussi biaisés. C'est. Mais après, peut-être que ça pourrait être intéressant de faire une partouze avec une équipe technique et de voir comment les gens réagissent devant les caméras. Tu vois.
Non, mais c'est vrai.
Peut-être que là, tout d'un coup, tout le monde deviendrait comme des acteurs porno. Et... ok, du coup, alors, après ce plan A3, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, qu'est-ce que ça a déclenché chez toi?
T'as
voulu faire plus?
Ouais, j'ai voulu faire plus. En fait, très rapidement, donc avec ce même pote, on a essayé de faire un plan A4.
Ça s'est bien passé avec le pote, du coup?
Ouais. Non mais c'est franchement le gars en question est vraiment génial et du coup
bonjour à toi.
Ouais, bonjour à toi. j'ai pas le mentionné de toute façon.
Non, je n'ai pas demandé qu'on mentionne mais voilà, on le salue bien fort.
et du coup, donc on a pas réussi en fait, on voulait faire un plan A4 avec la première fille avec laquelle on l'avait fait et on a pas réussi. C'est-à-dire que en fait, on a amené une copine à elle. Et au final, elle, c'était totalement... Enfin, elle voulait pas, quoi. Elle voulait pas, au final,
Sa copine voulait pas, tu veux dire?
Ouais, la copine voulait pas. Donc, elle était d'accord sur le principe. T'es chez moi, donc elle est venue à l'appartement, etc. Donc, on était quatre. Et en fait, au moment de passer à l'action, elle a dit, oh, je préfère qu'on fasse chacun, nous deux, de notre côté. Donc, on l'a fait à deux dans une chambre et à deux dans une autre chambre. Et en fait, c'est là qu'on a réalisé que essayer de convaincre des gens, c'était pas le bon plan, en fait. Toi, je pense que y en a beaucoup qui se disent bah, je vais en parler à ma copine, etc., pour la convaincre de le faire. Et en fait, au bout d'un moment, on s'est dit parce qu'on avait plusieurs filles en parallèle à qui on parlait, etc., on essayait de les convaincre de faire un plan. Et en fait, ça ne marchait pas. Et c'est là qu'on s'est dit en fait, on perd un peu notre temps. Il y a forcément des communautés qui existent, des gens qui sont déjà dans le délire. Et du coup, on s'est orienté là-dessus. Donc, on s'est mis, on s'est chacun créé un profil sur Wild. Et lui, du coup, il a été introduit dans le milieu avant moi. Et il s'est mis en fait à faire des soirées libertines où c'était couple et homme seul. Et donc, lui, il a rencontré des organisateurs de soirées libertines assez connus dans Paris qui s'appellent les Merteuil-Valmont. Je leur fais la petite pub. Et en fait, du coup, il a commencé à faire des soirées avec eux. Et il m'a dit, bah, écoute, Pierre, machin, si tu veux. Je peux t'inviter à l'une de leurs soirées. Et moi, alors, à l'époque, j'avais une partenaire qui était plutôt enclin à faire ce genre de soirée. Donc, je lui ai dit, bah, écoute, vas-y, pourquoi pas. Et donc, avec cette partenaire, j'ai fait ma première grosse soirée orgie, échangiste, t'appelles ça comme tu veux, où c'était couple et fille seule. Donc, je me suis amené avec cette partenaire-là dans une soirée. Je crois qu'on était 70 ou 80. Donc c'était vraiment
Ah oui, j'allais te demander qu'est-ce que c'est qu'une grosse soirée, mais d'accord.
Ouais, là c'était.
En effet.
C'était vraiment une grosse soirée. Donc c'était une maison sur 4 étages. T'avais plein de chambres en fait à chaque étage où les gens faisaient leurs trucs. Et là, donc en gros, dans cette soirée-là, donc au final, ma partenaire s'est totalement pissée dessus. Donc elle est partie, quoi. Et elle m'a laissé toute seule dans la soirée.
Dans le vrai sens du terme ou dans quel sens?
Elle a eu peur, quoi.
Ah, okay,
typiquement,
d'accord.
En fait, bah, tu t'arrives dans la soirée...
Pardon, excuse-moi, mais je préfère juste bien comprendre parce que ça peut être aussi quelque chose qui peut vraiment arriver. Donc,
Non, mais bah, en fait, elle a juste eu peur.
Du monde, c'est ça?
Ouais, en fait, des gens qui sont... Enfin, les filles se font une très légère...
Même en ayant l'habitude... Enfin, parce que tu dis qu'elle était enclin à ce genre de soirée, donc elle avait déjà fait des choses avec toi, de ce genre de soirée.
Elle avait jamais fait, mais d'accord. Elle voulait absolument tester, etc.
Ouais, et du coup, c'était un peu brusque de passer de rien à 80 personnes, quoi.
C'est ça. Donc en fait, elle est restée une heure et demie et elle est partie. Et vu que c'était une soirée en fait fille seule, donc moi j'ai rencontré une fille lors de la soirée. Et en fait, du coup, j'ai passé toute la soirée avec cette fille-là. Et j'ai vraiment kiffé la soirée dans le sens où, en fait, t'avais des gens de tous les âges. Donc, t'avais des filles seules de entre 20, 30, 35, 45, etc. Et en fait, t'avais dans chaque chambre, t'avais donc orgie, c'était vraiment 5-6 personnes sur le lit minimum. Et c'est ça un peu qui m'a lancé dans le délire des orgies. Donc, je me suis lancé, c'était une Québécoise, donc elle restait que 2 semaines à Paris, donc on a juste fait la soirée ensemble. Mais passé cette soirée-là, donc déjà, Je t'en prie. Hein.
Excuse-moi, pardon, j'ai une question. Vous étiez en relation libre avec cette partenaire qui est partie ?
Ouais.
Ok, donc tout ça, elle le savait, c'était...
Oh oui, toujours.
Okay. Je pense, pour comprendre le contexte. Hein.
Toujours, et je pense qu'il faut toujours être très clair sur les intentions derrière le fait de faire des plans à trois, etc. Parce que donc, déjà, pour la fille, ça la rassure de savoir pourquoi est-ce que t'as envie de faire des plans à plusieurs. Et je pense que le fait de jouer sur plusieurs tableaux ou le fait de ne pas être franc sur ce qu'on veut vraiment derrière, super malsain. Donc je le recommande vraiment à personne. Mmh.
C'était déjà arrivé de jouer sur ce tableau-là ?
Ça m'est arrivé, mais plus en début. Mais quand j'étais... quand je faisais que des filles en one-to-one, quoi.
Mmh.
Où je pouvais dire à une fille que j'étais en couple, mais au final, j'en voyais d'autres à côté. Je pense terrible pour la fille, terrible pour moi aussi. J'en ai souffert de ouf.
Pourquoi t'en as souffert ?
Parce que je pense que la partie mensonge, en fait, tu t'en souffres toi-même, tu vois, de devoir tenir un discours qui est faux. Je trouve que mentalement, c'est ultra pénible.
Fatigant.
Fatigant, totalement. Et je pense que la fille le sent, mais à 10 km. Donc, le fait de ne pas être franc du collier sur ce qu'on veut vraiment, je ne conseille pas le truc, du tout. Et je ne sais plus ce que je te racontais.
Excuse-moi, pardon, je t'ai fait divaguer. Mais c'est parce que tout ça, ça ouvre plein de petits tiroirs hyper intéressants. Et,
totalement.
Et je trouve ça très chouette qu'on aborde tous ces sujets-là parce que j'ai l'impression qu'en fait... Enfin, c'est l'impression que ça me donne, tu vas me donner ton avis, mais j'ai l'impression que plus justement on vit une sexualité ouverte et amenée à rencontrer différentes personnes... dans des contextes assez particuliers, et plus du coup on est fragile, comme on en parlait tout à l'heure, parce que du coup on se met à nu devant plein de gens, et plus du coup on se rend compte que le mensonge, la malhonnêteté, que en fait c'est compliqué à gérer, et ça nous met tellement de barrières là où parfois, juste parfois en fait, dire les choses,
ouais.
Et dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et quitte à ce que la personne en face n'apprécie pas, c'est pas grave, mais c'est important de se respecter en disant les choses, et que du coup, en fait, quand on dit les choses, quand il y a des problèmes, il y a toujours des solutions. Donc quand on dit les choses, on amène des solutions, alors que quand on n'en parle pas, ou quand on veut pas blesser la personne, ou je sais pas trop quoi, et du coup on arrondit les angles, ou je sais pas trop quoi, du coup, on n'aborde pas les vrais sujets, et donc ouais. Finalement, tout le monde est malheureux, parce que personne ne kiffe, quoi.
Mais c'est super vrai, et ça, je pense que c'est vrai en fait dans tout type de sexualité. Pour moi, moi je sais que quand je rencontre quelqu'un, une nouvelle personne, c'est un truc que j'aborde, mais sur le premier rendez-vous, quoi, parce que je trouve que c'est tellement structurant dans une relation homme-femme que savoir si la partenaire est plutôt dominante, soumise, si elle aime bien tel ou tel type de pratique sexuelle, enfin, déjà rien que de savoir ça. Bon, même si le feeling passe bien, etc., pour moi, c'est un élément tellement clé, en fait, dans une sexualité que très rapidement, en fait, quand on rencontre quelqu'un, on a envie de savoir si, au-delà du mental, sexuellement, on va être sur la même longueur d'onde, quoi.
Mm-hmm.
Et pareil, là, je pense que c'est vraiment un sujet où on ne peut pas changer les gens. On va pouvoir leur ouvrir un peu le champ des possibles. Mais pour moi, tu as des personnalités sexuelles qui vont plus ou moins s'entendre entre elles. Et c'est un truc, surtout si tu te projettes avec la personne, t'es obligé d'en discuter. Et si tu mets pas des mots là-dessus, et que tu sens que la personne est mal à l'aise, etc., ça va être très compliqué, en fait, de savoir ce qu'attend la personne en face. Et moi, je pense que post-sexe, après la première fois, etc., le fait d'en parler, de dire comment est-ce que t'as vécu le truc, c'était cool, qu'est-ce qui t'a plu, machin, ultra important. Si on n'arrive pas à le verbaliser, en fait, y a toute une partie de la sexualité qui est mise de côté. Et moi, je trouve ça super dommage.
Ouais, et puis ça casse la barrière tout de suite, de « ok, disons-nous les choses » et comme ça. Et puis pour rebondir ce que tu disais sur les personnalités sexuelles, je dirais que même si parfois en plus on peut se dire « ah ok, d'accord, moi je n'étais pas partie là-dedans », etc. En fait, ça donne une idée de... Enfin, en fait, ça fait prendre la température, et ça te donne une idée de « ok, peut-être qu'on peut évoluer à deux dans ce chemin-là. Du coup, peut-être qu'on va se retrouver là-dedans et que plus tard, eh ben, on arrivera à peut-être certains délires ou peut-être jamais, j'en sais rien. Mais au moins, ça donne une idée, une perspective là où quand tu te lances dans le flou, ben, chacun fait son truc ou en fait, du coup, ou essaye de faire le truc de l'autre. Enfin, c'est... Mais pour arriver à ça, c'est hyper important d'être hyper honnête avec soi-même et de aussi de savoir, bah, ok, par exemple, j'en sais rien, disons qu'une nana, bah, elle a hyper envie d'être soumise et elle le dit et elle l'exprime, mais pour elle-même, il faut qu'elle se pose la question, pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Est-ce qu'elle dit ça pour faire plaisir à la personne en face parce qu'il vient de dire qu'il était dominant, ou est-ce qu'elle en a vraiment envie? Enfin, et ça, c'est hyper important de savoir se situer soi-même, de ok, pourquoi est-ce que j'ai envie de ça? Qu'est-ce qui m'anime en fait vraiment dans cette relation sexuelle ou dans cette pratique? Et qu'est-ce que je vais aller creuser, quoi? Et je dirais que plus que de partager en fait finalement ce qu'on peut être au lit, c'est bien de partager ce qu'on recherche.
Ouais, je suis d'accord. Mais je pense que c'est tout un cheminement en fait. Mmh. Tu vois, parce que moi je les vois, donc j'ai un petit frère qui est un peu plus jeune que moi et tu vois, qui n'est pas encore dans cette étape de cheminement. Et en fait, il ne sait pas trop ce qu'il veut, tu vois. Et je pense que aussi bien chez un homme que chez une femme, tu as toujours cette période en fait de. Faut tenter des trucs, quoi. Très clairement, faut essayer différentes pratiques sexuelles, faut en parler avec ses nouvelles partenaires, etc. Parce que tu vois, pour moi, le but d'un adulte, en fait, arriver à maturité, c'est d'avoir une idée un peu. Enfin, ça change toujours, mais c'est d'avoir une idée de ce qui te plaît vraiment au lit. Et c'est comme ça que tu vas t'épanouir, c'est comme ça que tu vas pouvoir t'accomplir avec une partenaire. C'est tu sais ce que tu veux, la personne en face, elle sait ce qu'elle veut également. Il y a une compatibilité entre les deux parce que les pratiques vont converger ou les objectifs vont converger. Et c'est là qu'en fait le qui va se produire, quoi. Et si t'es pas en capacité de savoir toi ce qui te plaît et la nana le sait pas trop non plus, au final ça va être compliqué de trouver un peu un point d'accord où vous allez vous dire ok, on va faire ça ensemble, on va faire telle pratique. Tu vois, par exemple, pour en venir à tout ce qui est orgie, plan plusieurs, etc. Pareil, moi je pense que c'est un truc qui doit venir très rapidement en fait dans une discussion. Tu vois, si tu te projettes sur une relation, parce que pareil, tu vas pas te dire au bout de 3-4 ans, ah bon, en fait je veux faire du libertinage ou je veux faire des plans à plusieurs, des orgies. Parce qu'en général, la personne va dire, oh là, qu'est-ce qu'il me raconte?
Au bout de 3-4 ans, pourquoi pas quand même. Normalement, il y a une bonne communication entre les deux, tu peux avoir envie de nouvelles choses que t'as pas faites avant.
Ouais, je sais ce que tu veux dire. Moi je partais du principe que si le mec en avait envie dès le départ.
Ah oui, qu'il l'a pas dit, qu'il a attendu. Ouais. Oh oui, attendre 3-4 ans, oui. Ouais.
Parce que moi, je sais que j'ai pas mal de connaissances dans le milieu où en fait c'était assez chaotique parce qu'ils voulaient le faire depuis longtemps et ils en ont parlé assez tard à leur partenaire et du coup la partenaire le prend un peu mal, tu vois, quand le gars aborde le sujet parce qu'il se dit oula, en fait depuis le début tu voulais faire des partouzes, etc. Tu m'en as jamais parlé. Là, tu m'amènes le truc un peu en sous-main dans nos discussions. Je trouve ça bizarre, tu vois. Et je pense que pour les gens qui sont intéressés sur le fait de faire des plans à plusieurs, des partouzes, de gratter un peu tout le monde libertin, moi je vois aucun problème au fait de l'aborder très vite dans une discussion, parce que finalement en fait, il y a beaucoup plus de gens qu'on ne le croit, qui sont open à faire des plans à plusieurs, à tenter le libertinage, surtout à Paris. Je trouve que les gens sont assez ouverts d'esprit là-dessus. Et au final, je pense pas vraiment qu'il y ait le tabou à aborder ce sujet-là avec une femme, quoi. Tu vois, on pourrait se dire c'est un truc chelou,
etc. Ou avec un homme.
Ou avec un homme, tout à fait.
Ok, cool. Pour revenir du coup sur cette soirée à 80 personnes, je trouve ça assez intriguant que finalement, donc ta partenaire s'en va et tu fais la rencontre d'une Québécoise et tu décides de rester toute la nuit, si j'ai bien compris, avec cette même personne. Ouais. Alors que finalement, tu étais seule, t'aurais pu faire ton truc solo et faire plein de choses avec plein de femmes différentes, mais t'es restée avec la même partenaire. Est-ce qu'il y a une raison à ça?
C'était la première grosse soirée. Je me disais, ça va être trop con en fait de partir. Enfin, tu vois, j'avais pas vraiment lancé ma soirée de mon côté. Tu vois, j'avais eu des discussions, etc.
T'avais pris du Viagra là ou...
Non, j'avais pas pris. mais tu vois, je me disais, c'est trop bête, quoi. Enfin, c'est pas le genre de soirée qui se produit non plus tous les 4 matins. C'est un tout petit milieu, hein, le milieu parisien. Et je me disais, c'est dommage quand même de pas profiter, quoi, de pas au moins essayer de participer au truc. Et donc je me suis dit, elle part, mais moi je vais quand même essayer de rester. En plus le feeling était pas trop mal avec la Québécoise. Et en fait dans la soirée t'avais toute une partie de jeunes, donc moins de 30 ans en fait, qui étaient là dans la soirée libertine. C'était pas la majorité des gens de la soirée, mais il y avait quand même un petit groupe de jeunes très cool, très ouverts d'esprit, etc. Et qui plus est, donc ça m'a donné encore plus envie de rester.
Quand tu dis jeune, c'est quel âge à peu près?
C'était entre allez, 25 et 30 ans, quoi.
D'accord. Et donc la majorité de la tranche d'âge, c'était...
C'était plus vieux. C'était bien du 35-45.
D'accord. Ok.
Et c'est un autre, entre guillemets, problème aussi de ce genre de soirée, c'est que les gens qui vont rentrer dans cet état d'esprit de se dire « je vais faire des orgies, je vais mettre dans le libertinage », souvent, c'est des gens qui sont plus vieux. Mmh. Et en fait, il y a beaucoup de soirées où c'est des gens qui, voilà, qui sont, on pourrait dire, mûrs, matures. Donc après, il y a des gens qui vont kiffer faire des choses avec ce genre de... Mmh. Avec cette typologie-là de personnes. Moi, je trouve ça quand même plus sympa de le faire avec des gens de mon âge.
Que... Oui, tu dirais que le vrai souci derrière ça, c'est que l'acceptation l'émancipation sexuelle, pardon, pour ainsi dire, ça vient un peu trop tard, en fait.
Ouais, ouais, totalement. Ça, je pense que c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que, par exemple, là, sur les 80 personnes de la soirée, t'en avais beaucoup... oh là, c'était quoi? Des vieux libertins, quoi. Qui avaient roulé leur boss, qui, à partir de 30, 35 ans, s'étaient dit, vas-y, on va faire des trucs, machin... Mais je pense que chez les jeunes...
Donc à 45 ans, t'es un vieux libertin. Attends, c'est presque un truc de sportif. Enfin non, le sportif, il s'arrête à 35, tu me diras. Mais...
voilà, retraite tardive. Mais je pense que le... Enfin, moi, je suis totalement biaisé dans ma façon de voir le truc, parce que je suis parti un peu du milieu, mais j'ai l'impression que les gens vont se lancer là-dedans plutôt sur le tard, quoi. Donc les premiers couples, ça va être vers 25 ans. Parce que les gens auront eu l'occasion d'avoir plusieurs partenaires ou d'avoir plusieurs couples. Et pour moi, en fait, tout ce qui est plan à plusieurs, etc., c'est l'une des solutions pour faire perdurer un couple aussi. Donc en fait, les gens vont se lancer naturellement là-dedans. Mais la majeure partie, ça reste quand même des gens mûrs. Et c'est ça aussi le gros challenge quand tu veux faire une soirée, quand tu veux faire une orgie, etc., de trouver que des jeunes pour participer à sa soirée. Mmh. Parce que c'est avec eux que tu vas le mieux t'entendre. C'est pas forcément super simple.
Et pourquoi ça vient sur le tard, à ton avis? Quelle est la raison derrière ça?
Je pense qu'il n'y a pas de manuel de découverte de la sexualité. C'est un truc qui se fait naturellement, en fait, dans un chemin de vie. Et en fait, il n'y a pas d'occasion non plus, quoi. Enfin, tu vois, moi, j'ai provoqué un peu le truc en vraiment tentant de faire un plan à trois, ce qui m'a lancé dans ce monde-là.
T'étais motivé, quoi.
J'étais motivé. Mais... je pense que t'as le tabou pour une fille, tu vois, c'est... Enfin, surtout pour une fille, je pense que c'est pas... Toi, tu te sens jugée, etc. Tu sens que c'est pas un truc...
Même en étant en couple, tu veux dire.
Ouais, même en étant en couple. Parce que la plupart des gens que je vois, donc il y en a certains qui sont en couple et d'autres non, mais ils en parlent pas forcément leurs amis, tu vois. Parce que c'est quand même un truc un peu tabou, le fait de faire des orgies, de faire des plans à trois. C'est pas un truc naturel. Et je pense qu'il est totalement accepté... dans la société, donc les gens vont garder un peu cette facette-là de leur personnalité, et je pense que plus t'avances dans l'âge, moins t'en as quelque chose à faire, quoi. Et passé 30, 35, 40, les gens sont plus libérés sur le sujet, quoi.
Donc dans les gens que tu connais, dans le milieu du libertinage, la plupart, leurs proches le savent, ou est-ce que c'est quelque chose que la plupart gardent secret, ou dans une autre sphère?
Je pense que c'est assez secret, ouais. Ouais. Moi, je sais que dans les soirées que j'organise, moi, les gens que j'invite, parce qu'on a souvent la discussion, c'est un sujet qui est, tu vois, de qui le dit à ses potes, de qui le dit à ses parents, etc. T'en as quand même très peu qui sont à 100% transparents. Parce que, tu vois, pour moi, je trouve qu'il y a vraiment deux catégories. T'as un peu les potes classiques et les potes ouverts d'esprit. Donc, t'as un groupe de potes auxquels tu pourras leur dire qu'ils s'en fichent totalement.
C'est dur de les appeler classiques. Enfin, ça me fait un peu du mal que tu dises ça. Parce que ça veut dire que nous, on n'est pas classiques, tu vois. Enfin, c'est-à-dire que les autres ne sont pas classiques, c'est... Pour moi, c'est...
Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais je pense qu'il y a des gens qui... Moi, j'ai pas trop de gens comme ça dans mon entourage, donc je pourrais pas forcément beaucoup en parler. Mais pour moi, t'as des gens qui vont pas... qui vont trouver ça bizarre. Ouais, le fait après, que tu fasses des orgies...
Ils vont après, il y en a peut-être qui sont pas intéressés. Et puis, voilà. Peut-être qu'il y a ça aussi, je pense. Enfin, je peux comprendre qu'il y ait pas mal de personnes... à qui tout simplement ça les intéresse pas, comme je sais pas, moi demain tel ou tel sport, peut-être que ça va pas m'intéresser, et puis il y a d'autres sports par lesquels je vais être hyper attirée, donc ou des jeux, je sais pas, peut-être qu'une partie de poker ça va grave me dire, et qu'une partie de tarot je vais pas, enfin
ouais.
Voilà, si je mets ça dans un tout autre contexte, mais par contre ce qui est intéressant, c'est de voir que que c'est ok de pas aimer les orgies ou de pas avoir envie d'en faire. Et par contre, on se sent obligé de cacher, enfin de ce que je comprends, il y en a beaucoup se sentent obligés de cacher et de ne pas accepter, enfin de pas que ce soit un problème en tout cas de d'aimer le sexe en fait, tout simplement quoi, ou d'aimer le sexe à plusieurs et d'avoir besoin de le cacher et que ça reste tabou.
Je pense que c'est en train de changer. Hein. Je dis pas que qu'on est une société ultra conservatrice qui ferme totalement les yeux là-dessus. Je pense que c'est en train de changer. Moi, je sais que dès que j'en parle à des potes, ils trouvent ça curieux un peu au début, mais au final, ça les dérange pas plus que ça. Après, je pense que dans l'inconscient collectif, les gens se disent si j'en parle, les gens vont trouver ça bizarre. Dans les faits, lorsqu'ils en parlent, je suis pas sûr que ce soit non plus super mal reçu. Il est bizarre, c'est un déviant, machin et tout. Mais je pense que dans l'inconscient collectif, le fait d'en parler ouvertement, tu vois, si je te prends l'exemple extrême d'en parler au travail, par exemple, il y a plein de gens qui vont se dire jamais je raconte ça à mes boss, quoi, parce que c'est un truc qui peut être vu comme bizarre. Mais je pense que sur des potes proches, moi je sais qu'en tout cas mes potes proches, je peux leur en parler, et ils me connaissent, ils savent que c'est partie de qui je suis, etc. Il y a aucun souci là-dessus. Mais je pense que dans encore certaines sphères familiales, professionnelles, etc., ou certains groupes de potes, le discours va pas être bien pris, quoi.
Donc la question serait comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte pour qu'il y ait moins de jugement vis-à-vis de tout ça?
C'est une vraie question. Moi, je trouve que le fait d'en parler, tu vois, simplement, moi, j'adore parler cul, tu vois. Quand je suis en soirée, etc., je trouve que c'est des sujets... En fait, c'est des sujets d'adultes, quoi, et tous les adultes devraient être capables d'en parler, parce que, on a tous une vie sexuelle qui varie selon les gens, quoi, mais on a tous une vie sexuelle, c'est une partie importante d'une vie d'adulte, et je pense que rien que le fait d'en parler, de parler de ses envies, de parler de ses fantasmes, de parler de ses expériences, je trouve que ça délie les langues.
Ça délie les langues,
ouais,
tout
exactement,
à fait.
Et je pense que c'est des sujets, voilà, il faut pas avoir honte d'en parler. Il y aura forcément des gens qui seront un peu bloqués, un peu coincés, mais pour moi, plus on en parle, plus ça démocratise le truc, et plus en fait, les gens qui auront envie de faire des orgies, les gens qui auront envie de faire leur 3-3, ils essaieront, quoi.
Et finalement, on se rend compte qu'il n'y a rien de classique ou de pas classique, on est tous normaux avec différentes envies, et puis c'est tout.
Ouais, totalement.
Pour les orgies, est-ce que tu pourrais me raconter une anecdote en particulier et vraiment me plonger dans la soirée ou la journée, je sais pas à quelle heure ça s'est passé, mais et vraiment me raconter une anecdote comme ça qui t'a marqué et après me dire pourquoi elle t'a marqué celle-là.
Ok. Donc je vais parler de la première grosse soirée que j'ai organisée chez moi, parce qu'en gros, du coup, suite à la soirée donc de 80 personnes là. Je me suis dit que, avec les gens que j'avais rencontrés, avec les applications dont je t'ai parlé, etc., je pouvais en organiser une chez moi. Et donc, je me suis lancé en tête de faire une soirée, je crois que c'était 25-30 personnes dans mon appart. Donc, j'étais avec deux autres potes. On a envoyé des invitations dans tous les sens.
Attends, juste avant que tu continues, pourquoi avoir, toi, lancé une organisation? Parce que tu ne trouvais pas assez de soirées? Est-ce qu'il n'y en avait pas assez ou...
Alors j'ai voulu organiser parce qu'en fait quand tu fais une soirée ailleurs que chez toi, tu maîtrises pas le casting, tu vois, t'as pas la maîtrise de qui vient, est-ce que les gens vont être dans ton style, est-ce que l'ouverture d'esprit des gens, leur façon d'interagir entre eux, etc., tu maîtrises pas du tout ce truc là tu vois. Donc l'avantage de le faire chez toi, c'est que ça va être, tu vas maîtriser le casting, tu vas pouvoir inviter des gens qui sont dans ton délire. Tu vas être beaucoup plus à l'aise quand t'es chez toi que quand t'es à domicile, pas à domicile, tu vois.
Sans Viagra
en plus. Et
tu m'as fait beaucoup rire avec ça, pardon.
L'histoire du Viagra. Et du coup, non, en fait, je m'étais dit que ça serait peut-être beaucoup plus simple, je serais plus à l'aise à faire un truc chez moi que de faire des soirées chez les autres.
Donc tu lances cette soirée avec deux potes.
Voilà, je lance cette soirée avec deux potes. Donc on avait 2-3 applications, on a shooté des invitations dans tous les sens. Pas facile non plus, parce que du coup, t'invites pas une soirée pour boire des coups, machin. Là, c'est vraiment... on avait brandé le truc comme une soirée, une orgie, quoi. Et du coup, on recevait des tonnes de questions. Mais comment ça se passe? Comment faut venir? Quel alcool? Quelle heure? Comment ça va se passer? Donc, et nous, on ne savait pas trop non plus comment répondre, parce que tu vois, c'est la première fois qu'on en organisait une. Et du coup, on avait des meufs de Tinder qui étaient là, on avait des meufs de Field, on avait des meufs de Wild, enfin de partout. Ah,
donc tu les connaissais pas personnellement, du coup, finalement, toutes
pas
ces
toutes,
personnes?
Pas toutes, j'en connaissais certaines.
Donc comment t'as fait le tri, alors?
Comment on a fait le tri? Bah déjà, critères physiques, forcément. On voulait inviter des filles qui nous plaisaient.
Et les mecs?
Et les mecs, bah, il y avait pas mal de potes, parce qu'en fait, c'était donc les potes qui organisaient la soirée. Et on avait invité quelques couples aussi. Parce qu'en fait, ce que m'avaient recommandé d'autres organisateurs de soirée, c'était que pour lancer en fait une orgie, c'est toujours mieux d'avoir des couples qui soient à l'aise avec leur sexualité, etc. Et c'est souvent les premiers en fait à faire des trucs dans ce genre de soirée. Donc on avait invité des couples, donc il y avait des mecs aussi qui étaient là. Et du coup, donc on a fini, je crois qu'on était donc entre 25 et 30 personnes. Il y avait plus ou moins une parité, même s'il y avait un peu trop de filles. Ça fait un peu la pub des films porno. Mais au final, c'était...
Bravo.
Mais c'était plus ou moins un problème, parce qu'au final, je trouve que c'est mieux quand t'as une
bah
vraie
oui.
parité.
Oui, bah bien sûr.
Voilà. Parce qu'on avait pas, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de trucs à avoir en tête, le fait que si t'avais pas suffisamment de filles bi, au final, t'en avais qui s'embêtaient, etc. Tu vois, donc... Le fait d'avoir des bons ratios un peu dans tous les sens pour s'assurer que les filles soient contentes, les mecs soient contents, pas si simple au niveau de l'organisation d'une soirée. Et du coup, donc, on démarre la soirée ultra galère de lancer les hostilités, parce que en fait, on était tous plus ou moins sur notre première organisation de soirée. Les filles qui étaient venues, c'était pas des adeptes, elles avaient pas forcément l'habitude de faire ce genre de soirée-là. Donc on a galéré en fait à lancer le mouvement. Et en fait, jusqu'à 23h30, minuit, c'était une soirée, tout ce qu'il y a de plus classique, ça parle, ça boit, etc. Et au final, donc c'est moi qui ai lancé un peu la soirée. Donc il y avait une fille qui avait été invitée de Tinder par un pote, je connaissais la fille ni Dave ni d'Adam, mais on a super bien cheaté. Et donc au final, je crois qu'on a commencé à coucher sur le balcon. C'était en été, hein, donc il faisait chaud et tout, c'était bien, tu vois. Et donc on a lancé la soirée comme ça. Donc on a commencé à coucher sur le balcon une première fois. Donc en fait, dès que nous on a commencé à coucher, tous les gens autour se sont mis à s'embrasser, etc. Ça a un peu lancé la soirée. Et donc en fait, il faut savoir qu'il faut toujours quelqu'un pour lancer une soirée, une orgie, parce que sinon ça part jamais, quoi. Et cette personne-là, en fait, c'est assez marrant, parce que on a eu un coup de foudre d'orgie, si tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est super bien entendu. Tu vois, j'étais persuadé qu'en fait, il fallait forcément une discussion, il fallait forcément une période de flirt, etc. Et en fait, on s'est super bien entendu directement sexuellement lors de l'orgie, tu vois. Et t'as pas eu en fait toute cette partie.
Comment la connexion s'est faite alors?
Bah, c'est une vraie question. Tu vois, je pense qu'on a dû rigoler, on a dû parler, mais 20-30 secondes. Et t'as une connexion sexuelle qui s'est fait très rapidement. Et qui a perduré, parce que je vois encore la personne en question. Et au final, en fait, on a couché 5 ou 6 fois, je pense, pendant la soirée. Et en fait, c'est avec elle que j'ai organisé toutes les autres orgies après, et que on s'est fait un petit réseau en fait dans le milieu, juste avec cette fille là que j'avais rencontrée, mais je connaissais ni David Adam, on n'avait absolument pas parlé. Et t'as eu vraiment une connexion sexuelle très forte lors de la soirée.
Tu peux m'en dire plus sur la connexion? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Enfin, si je voulais visualiser un peu la scène.
Si tu voulais visualiser la scène, je pense que déjà dans...
Vous étiez où exactement? Est-ce que tu buvais un verre? Est-ce que...
C'est très bestial comme scène. Donc
ouais, très bien.
Il y avait... Donc on était uniquement donc sur le balcon chez moi. Donc tu avais 5-6 personnes à côté en fait, qui étaient en train de discuter et tout. Et on discutait sur le fait que voilà, la soirée avait du mal à décoller. Et que il fallait forcément quelqu'un qui lance la soirée pour que les gens autour se disent bon allez c'est parti machin. Et donc on était en train de boire un verre sur le balcon, on se regardait machin. Et tu vois, j'avais encore du mal à me dire là on est dans une soirée une orgie, tu vois, tu peux peut-être tenter des trucs que tu te permettrais pas dans une soirée classique. Donc là en fait je me suis mis à l'embrasser sur le balcon. Et là je pense qu'elle a compris vis-à-vis de la discussion qu'on avait juste avant que le but c'était de lancer la soirée et donc elle avait un elle avait un genre de collant en cuir ultra moulant. Et donc là, j'ai commencé à lui baisser la fermeture éclair du collant en cuir. Et donc, on n'avait pas de capote, donc on n'a pas pu le faire directement. Mais moi, j'ai été chercher une capote dans la chambre juste à côté. On est retourné sur le balcon, parce qu'on trouvait que le balcon, c'était un endroit sympa pour lancer les hostilités. Et
à la vue de tous, du coup.
Ouais, à la vue de tous. Et il y avait un côté assez excitant, je pense un peu égocentrique, de se dire on le fait devant tout le monde sur le balcon. Et là, du coup, j'ai baissé l'espèce de collant en cuir qui était tout juste dézippé. Et là, en fait, on s'est mis à le faire sur le balcon. Et donc, je pense que les gens autour ont dû se dire, bon, bah là, c'est un peu le coup de sifflet. La soirée est en train de démarrer. Et en fait, donc, il y a deux chambres dans l'appartement dans lequel je suis. Et donc, tu as des gens qui ont commencé à se mettre dans la première chambre sur le lit. Qui ont commencé pareil à faire des trucs, etc. Et t'en as d'autres qui sont allés dans la deuxième chambre, donc on commençait aussi à faire deux trucs à côté. Donc nous, on a fini juste à deux, en fait. La première fois qu'on l'a fait ensemble, c'était juste à deux. Et en fait, une fois qu'on l'a fini, donc t'avais une autre fille qui était là aussi dans la soirée. Et donc du coup, c'était mon premier plan à trois avec deux filles que j'ai fait lors de cette soirée, du coup.
Et première soirée organisateur, premier plan à trois avec deux meufs, attends, c'était une sacrée soirée.
Ouais, et du coup, non, mais ça m'a laissé des moments super forts, en fait, parce que j'ai eu l'impression d'avoir abattu 3-4 murs, en fait, pendant la soirée.
Ah, il y en a d'autres, alors?
Bah, déjà, le fait d'avoir autant de gens chez moi, à poil, en train de faire des trucs sur les lits et tout, c'était pas forcément quelque chose que j'avais dans mes plans, à la base, quand j'avais emménagé là-bas. Et le fait, tu vois, enfin, là, qu'on reparle de zone de confort. Là, pareil, j'étais totalement en train de repousser des murs qu'il y a 2-3 ans, j'aurais pas imaginé, quoi. Et le fait d'être dans cette situation-là, de te dire, je m'assume totalement physiquement. Le contact avec les gens était très facile, tu vois, t'avais pas toutes les barrières de gens qui se cachent, etc. C'est vraiment une sexualité très ouverte. Et en fait, même dans les soirées que j'avais fait là, où on était plutôt dans les 70-80, j'avais pas eu ce truc-là dans ces soirées-là, tu vois. Parce qu'en fait, t'avais des classes d'âge qui étaient très séparées. Mmh. Et là, le fait que c'était que des jeunes, quoi. C'était que des gens de moins de 30 ans. Je trouvais que ça donnait une vibe vraiment différente, en fait, à l'orgie qu'il n'y avait pas avec des classes d'âge très séparées. Parce que tu vois, moi, typiquement avec une femme de 45-50 ans, je vais pas me sentir aussi à l'aise qu'avec une fille de mon âge, tu vois. T'as forcément des barrières psychologiques, etc., qui se mettent en place.
En tout cas, c'est d'autres rapports, c'est d'autres choses rapports que tu recherches, en fait.
Exactement, ouais.
Ok. Ça se passe où, ces soirées? Donc, si vous voulez vous inscrire à la prochaine soirée de Pierre, abonnez-vous à la newsletter de Colette, je vous envoie l'adresse. Non, je rigole, tout ceci restera très privé.
Merci.
Merci de partager tout ça. J'ai encore plein de questions, mais je vais m'arrêter là pour l'instant et ce sera peut-être une occasion pour refaire ça une autre fois, peut-être sous d'autres angles parce que ça relève plein de sujets. Donc merci d'avoir partagé tout ça. J'ai des petites questions rigolotes à te poser. Okay. Qui changent un peu des sujets. Enfin, c'est toujours lié à la sexualité, mais après, à toi de voir dans quel contexte tu vas te raconter ça. Je voulais savoir... Est-ce que tu te souviens de la chanson du style musical sur lequel tu as fait l'amour la dernière fois? De ton dernier rapport sexuel?
Tu vas trouver ça super bizarre.
C'est ce qui me fait rire, justement. C'est ça que je veux savoir.
Je crois que c'était de la musique de méditation.
Oh!
Donc c'était une musique du style... comment ça s'appelle? C'est des fréquences, en fait, pour te sentir bien, quoi. Et du coup, la fille avait mis une fréquence de méditation. Et on avait commencé à chauffer là-dessus.
Il y avait de la voix aussi ou juste de la chanson?
C'était juste de la musique.
Okay.
C'était juste de la musique de méditation. Et du coup, j'ai fait l'amour là-dessus. Une fréquence, je crois, 512 GHz ou je sais pas quoi. Je ne me connais pas plus que ça.
Ok, je vais aller checker ça. Cool. Mais je vois très bien le délire, c'est okay. Chouette. Et si toi, tu avais choisi un style musical, que ce soit pas forcément en ce moment-là, mais de manière générale, sur quoi t'aimes bien faire l'amour?
Alors, je le fais très rarement avec de la musique. Ouais, donc j'aurais même pas de genre musical à te proposer.
Donc tu aimes le son des corps?
Exactement, ouais.
La musique des corps, c'est quelque chose aussi, hein. Ça reste très musical. Ça marche. Selon toi, est-ce qu'un fantasme est fait pour être réalisé?
Pas toujours. Je pense que un fantasme veut pouvoir alimenter toute la partie imaginaire sexuelle. Mais pour moi, tu as des fantasmes qui doivent rester des fantasmes et qui seront jamais réalisés. Hein.
Pourquoi ça?
Pourquoi ça? Je pense qu'il y a des fantasmes qui sont d'autant plus excitants quand ils vont pas être réalisés. Tu vois, le fait de savoir qu'un fantasme va pas pouvoir être réalisé ou va être très compliqué à réaliser, je pense que c'est d'autant plus excitant et je pense que ça fait partie de la vie sexuelle d'un adulte. Je vais te prendre un exemple parlant, je suis pas dans ce cas-là, mais toi, je pense que quelqu'un, par exemple, qui est en couple avec sa femme, etc., qui a des enfants, pourra avoir des fantasmes qu'il pourra pas réaliser parce que la situation ne permet pas, mais qui vont être très excitants pour lui. Et pour moi, ça va faire partie d'une vie sexuelle, d'avoir des fantasmes que tu peux pas assouvir, mais qui vont quand même alimenter voilà, cette vie sexuelle, cette excitation. Et qui, moi, je pense que le fait d'avoir des fantasmes va pouvoir limite, en fait, alimenter une vie sexuelle normale avec une partenaire, même si tu peux pas pouvoir les assouvir, quoi.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as jamais fait ou que l'on ne t'a jamais fait que tu rêverais que l'on te fasse?
Vraie question.
Si tu devais aller plus loin dans tes barrières, dans ta zone de confort, justement, où est-ce que tu irais l'élargir?
C'est une question qu'on m'a déjà posée. Et là, j'ai pas forcément de fantasme en cours.
Sans parler de fantasme, mais même, je sais pas. Oui, c'est si tu devais aller plus loin dans ta zone de confort, quoi. Ça serait quoi la prochaine étape?
Alors, moi, il y a un truc que j'ai pas forcément fait. Je sais qu'il y a des clubs libertins à Paris. Tu vois, un peu en mode boîte de nuit, mais libertine. Et moi, j'ai beaucoup fait de soirées en appartement, etc. Mais j'ai jamais fait de club libertin. Donc. Pourquoi pas?
Ok. Bon, bah écoute, ça sera le sujet du prochain épisode. Alors maintenant, c'est une question que. Alors disons que tu couches avec quelqu'un, que ce soit un mec ou une meuf. Ah d'ailleurs, on n'a pas parlé de ça, tiens. Si les rapports étaient que quand tu faisais par exemple sur le plan A3 ou en orgie, est-ce que c'est d'une manière bisexuelle ou est-ce que c'est vraiment exclusif envers un genre? Après, à toi de voir si tu as envie d'en parler maintenant.
Non, ou... non, pas de souci. Moi, toutes les soirées que j'ai fait, c'est que hétérosexuel. J'ai pas forcément l'envie de faire des soirées bisexuelles. Je sais qu'il y en a, mais moi, je sais que les soirées que j'organise et que et les gens viennent aussi pour ça, parce que tu vas rechercher en fait un certain type de sexualité, il y aura toujours du bisexuel côté féminin, mais de l'hétérosexuel côté masculin.
Bon, donc il y a un peu de travail psychologique à faire. Hein. Donc voilà, peut-être que c'est ça la zone de confort à élargir. On en reparlera plus tard. Non, tout ça pour revenir à ma question qui n'avait rien à voir avec ça, excuse-moi. J'ai divagué. Donc disons que tu as un premier rapport donc, avec une femme, en l'occurrence pour toi, et ça se passe pas bien.
Ouais.
C'est la première fois que vous couchez ensemble, ça se passe pas bien. Qu'est-ce que tu fais pour que ça se passe mieux? Enfin, comment tu vas réagir?
Qu'est-ce que tu appelles ce pas bien se passer? La fille est pas à l'aise ou...
Ouais, il y a un truc qui fait que vous n'êtes pas en train de prendre votre pied, quoi. Que ce soit pour X ou Y raison.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors moi, je parle beaucoup. Et en général, lorsque je vois que ça se passe pas bien, je m'arrête et j'en parle. Parce que je pense que forcément, la fille, elle a un truc qui lui trotte dans la tête, ou peu importe, hein, le truc qui lui trotte dans la tête. Et le fait de pouvoir en parler... Je trouve que bien souvent, en fait, la fille, elle va raconter le truc qu'elle a en tête, ou le problème, ou son vécu, ou peu importe.
Ou que toi aussi, parfois, tu vas pas bien. Et...
Totalement. Mais en tant que mec, c'est pareil. Des fois, t'es pas... En tant que mec, des fois, on n'a pas envie, ou on n'est pas à l'aise, ou il y a un truc qui va pas. Et je pense que d'être en capacité d'en parler, ça fait baisser la pression de dingue, quoi. Et en général, je trouve que le fait d'en parler, de poser 10-15 minutes, donc d'arrêter... Ça permet en fait de relancer le truc et en général, le sexe derrière est très cool.
Trop bien. Bah, merci pour tout. C'était super chouette. Merci Pierre. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à noter 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Dorénavant, c'est nouveau, on peut désormais mettre des étoiles sur Spotify. Laissez un avis, dites-moi en commentaire si cet épisode vous a plu. Qu'est-ce que vous aimeriez pour la suite? Vos retours sont super importants pour moi. Et j'espère à très bientôt pour de nouvelles aventures.
Merci Colette.
Merci. Merci cher auditeur, chère auditrice. Si l'épisode t'a plu, n'oublie pas de le partager au maximum autour de toi, de laisser un commentaire et 5 étoiles dans l'application dans laquelle tu es en train de m'écouter. Tu peux me suivre sur les réseaux, Instagram, Facebook, Twitter. Tu peux me soutenir avec un tip. Devenir donateur, c'est super important. Pourquoi ? Parce que c'est me soutenir dans mes créations, pour que je continue à créer de la qualité pour tes oreilles affûtées. Tu auras accès à des épisodes exclusifs, à toutes les sorties en avant-première et au Discord Le Club de Coco, dans lequel il y a beaucoup d'échanges, de discussions. J'y partage des infos, des petites pépites, des bons plans. Pour devenir membre, c'est tout simple. Rendez-vous sur le site internet patreon.com/Colette se confesse. Colette s'écrit avec un L et deux T. À bientôt. Colette.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.